Un reportage dans l'est de la Turquie. Nous sommes tout près de la frontière irakienne. Hasankeyf est une ville 10 fois millénaire. C'est l'un des berceaux de la civilisation. Et elle attend d'être noyée dans les flots du Tigre, ce fleuve mythique de Mésopotamie sur lequel l'État turc veut construire un gigantesque barrage. Pour alimenter le pays en électricité, plus de 50 000 personnes vont devoir quitter leur maison. C'est un grand reportage de François Cardona. On écoute et on retrouve François tout de suite après. Entrez, entrez, vous êtes les bienvenus.
Feyruza Kanat et son mari sont les derniers à vivre dans les grottes de l'antique cité d'Hasankeyf. Les autres habitants sont partis vivre il y a longtemps, à quelques centaines de mètres de là, dans la nouvelle Hasankeyf, dans de vraies maisons. La grotte de la famille Kanat est nichée dans la falaise à une dizaine de mètres au-dessus du sol. Pour y accéder, il faut emprunter un escalier taillé à même la roche.
Je suis née ici. J'ai vieilli ici. Je n'ai jamais vécu autre part que dans cette grotte. C'est sûr, ce doit être bien de vivre dans une maison, mais nous n'avons pas les moyens de vivre ailleurs, dans une vraie maison. Cette grotte, c'est tout ce que nous avons. Vous le voyez, ici, rien n'a changé, ou presque. Avant, on utilisait des bougies pour avoir un peu de lumière. Il n'y avait pas d'électricité. Nous avions un four en pierre. C'est pour cela que le plafond est noir. C'est à cause de la suie, pendant toutes ces années.
À 70 ans passés, Peyruza refuse de quitter son foyer. Si elle ne veut pas mourir noyée, elle et son mari devront pourtant prendre le chemin de l'exil. Car lorsque le barrage d'Ilissou sera terminé, l'eau envahira toute la ville, y compris la falaise dans laquelle est creusée la maison de la famille Kanat.
Nous ne voulons pas que le barrage soit construit. Hasankeyf est un endroit merveilleux.
Les gens ont habité dans ces grottes pendant des milliers d'années. Maintenant, vous êtes les derniers. Est-ce que vous regrettez ?
Oui, les gens ici ont toujours habité dans les grottes, partout, autour. Je me rappelle qu'il y a longtemps, la falaise était pleine de vie. La ville était très animée. Mais les habitants sont partis et nous sommes les derniers à vivre dans une grotte. Mes parents, mes grands-parents et les parents de mes grands-parents ont vécu dans cette grotte. J'y suis très attachée. C'est la maison de mes ancêtres. Nous sommes des gens pauvres. Nous n'avons pas les moyens de partir ailleurs. Nous n'avons pas le choix.
Située aux confins de la Turquie, Hasankeyf est considérée comme l'un des berceaux de l'humanité. La route qui enjambe le Tigre et qui mène à la ville est l'une des plus anciennes au monde. Pendant des millénaires, les hommes l'ont parcouru pour traverser la Mésopotamie, un très long voyage qui les menait de la Turquie en Irak ou en Syrie. Perchée en haut de la falaise, une imprenable forteresse qui fut romaine puis byzantine surplombe le Tigre. En contrebas, des gamins en sandales font des ricochets pendant que leur père pêche au milieu du fleuve. Il y a 800 ans, Hasankeyf était la capitale d'un vaste empire. Aujourd'hui, la cité risque de disparaître sous les eaux de la deuxième plus grande retenue d'eau de Turquie. Nejla Kaya est une jeune archéologue qui a participé à des fouilles dans la région. Elle a tenu à nous emmener au pied de la cité, sur les bords du Tigre.
Nous sommes sous ce qui reste du pont d'Hasankeyf. Vous voyez, il ne reste que les piliers de cet immense pont entre lesquels passe le Tigre. Ce sont ces restes magnifiques que l'État turc prévoit de transporter dans un autre endroit. Mais il est impossible de prendre quoi que ce soit ici sans lui faire perdre son âme, sa beauté. Et il y a plus grave encore. Comme vous le voyez, les piliers qui soutiennent le pont ont été fabriqués avec ces grosses pierres de taille. Mais à l'intérieur des piliers, il n'y a que de la terre et de petites pierres. Il n'est donc pas possible de bouger ces constructions sans risquer de les détruire définitivement.
Et si le barrage est construit, jusqu'où l'eau montera-t-elle ?
Vous voyez cette ligne dans la falaise ? C'est à environ 20 mètres au-dessus du sol. L'eau va monter jusque-là et tout engloutir. Le problème, c'est qu'ici, la roche est très friable. C'est pour cela que les gens habitent dans des grottes depuis des siècles. Alors petit à petit, l'eau du barrage va abîmer la pierre, grignoter la falaise et tout s'effondrera. Pour l'archéologue que je suis, c'est vraiment frustrant, désespérant même. Car à peine un tiers de la zone qui sera submergée a été fouillée. C'est un pan de notre histoire que nous allons perdre. Vous savez, Hasankeyf est la mémoire de la Mésopotamie.
Le soleil est déjà haut dans le ciel au-dessus d'Hassan Kaif lorsque du haut du minaret, l'imam appelle à la prière. Les piliers du vieux pont, la mosquée, le mausolée, autant de monuments que l'État turc veut tout de même sauver de la noyade. Ils seront donc transportés dans un tout nouveau parc d'attractions culturelles. Un projet qui évidemment a le don de mettre en rogne les habitants d'Hassan Kaif, surtout ceux qui vivent du tourisme. Murat Yilmaz a 31 ans et sa boutique de souvenirs, c'est toute sa vie.
Cette grotte est la mienne. Je l'ai héritée de mon grand-père avec mon neveu. Nous l'avons convertie en boutique. Grâce aux touristes, nous travaillons environ 8 à 10 mois de l'année. Ça marche bien. Nous gagnons bien notre vie. Si Hassan Kaif est englouti, nous perdons tout, tout ce que nous avons. Et nous n'avons nulle part où aller. Alors je peux toujours travailler à Istanbul sur les chantiers, mais je ne sais pas si je pourrais nourrir ma famille. La ville d'Hassan Kaif est vieille de plusieurs milliers d'années. Le barrage, lui, aura une durée de vie de 40 ou 50 ans. Alors s'ils veulent sacrifier une histoire de plusieurs milliers d'années pour un barrage qui servira pendant à peine un demi-siècle, franchement, je n'ai pas de mots pour décrire ce que je ressens face à un tel projet. Les pays européens qui financent ce projet menacent de s'en tirer et ils ont donné un nouveau délai à la Turquie. Mais quand les experts sont venus, ils n'ont pu que constater que rien ici dans la vallée n'avait été fait. Alors j'espère que ce barrage ne sera jamais construit.
Et vous espérez donc que l'Union européenne va empêcher la Turquie de construire ce barrage ?
Nous ne sommes pas contre le barrage. Nous voulons juste qu'Hassan Kaif ne soit pas englouti sous les eaux. Nous appelons les pays européens qui financent le barrage et menacent Hassan Kaif de destruction, qu'ils viennent ici, qu'ils voient combien cette ville est incroyable. Et là, ils décideront si oui ou non, ils veulent toujours donner les fonds à la Turquie. Mais s'ils décident vraiment de faire le barrage, alors nous resterons ici, ils peuvent construire leur barrage, engloutir Hassan Kaif. Mais ils devront nous engloutir avec, nous ne partirons pas.
La Turquie a besoin d'électricité. En 40 ans, plus de 18 barrages ont déjà été construits. Un succès. Car en plus de produire de l'électricité, l'eau du lac de retenue permettra aussi d'irriguer la région. Seul problème, cette fois-ci, trois pays européens, l'Allemagne, la Suisse et l'Autriche, dont les entreprises financent le barrage d'Ilissou, menacent de se retirer du projet. Or, sans leur aval, ce barrage, dont le coût est estimé à 1,2 milliard d'euros, risque tout simplement de ne pas voir le jour. Pourtant, à Diyarbakır, la capitale régionale, Galip Ensarioğlu, le président de la Chambre de commerce, ne s'en inquiète pas outre mesure. Pour cet homme d'affaires aisé, au costume impeccablement coupé, le futur barrage est une opportunité à ne manquer sous aucun prétexte.
C'est certain, personne n'en doute. Ce barrage va permettre un très fort développement économique de notre région. 8000 ouvriers vont travailler sur le site pendant la construction du barrage. Pendant cette période, le chantier va générer du commerce pour environ 700 millions de dollars. Et après la fin des travaux, le barrage devrait permettre la création de 80 000 emplois, directs ou indirects. Et surtout, la production nationale d'électricité va augmenter considérablement. Nous savons que ce barrage risque d'abîmer des monuments historiques, c'est vrai. Mais je comprends qu'il y ait un débat. Certains disent qu'une pierre est importante, d'autres non. L'État turc prend ses considérations en compte. Il prévoit même de transporter ces monuments dans un autre endroit pour les préserver. En fin de compte, l'État fera ce qu'il y a de mieux.
Solliciter les autorités locales turques n'ont pas répondu à nos demandes d'interview. Mais il est vrai que le sujet est sensible, tellement sensible même que dans le village d'Ilissou, situé sur le site du barrage, les habitants ont reçu pour consigne de ne parler à aucun étranger, et encore moins un journaliste. Impossible donc de se rendre sur place sans leur causer d'ennui. L'un d'eux a néanmoins accepté de nous rencontrer dans un restaurant discret d'une ville proche. Il ne veut pas dire son nom par peur des représailles.
Nous sommes comme prisonniers. Depuis que les ouvriers sont arrivés, que les travaux du barrage ont commencé, notre village est devenu une prison. Et nous y sommes presque enfermés. Nous ne pouvons pas sortir du village. Avant, nous avions l'habitude d'amener nos animaux à l'extérieur, dans les montagnes, sur nos terres, qui seront bientôt inondées. Mais maintenant, c'est impossible. On ne peut tout simplement plus nous déplacer. Ils ont construit des routes, de grands baraquements pour les ouvriers du chantier et un pont. Ils ont aussi construit une grosse base militaire et de petits postes de gendarmerie un peu partout pour surveiller les alentours. Et sur le site, les ouvriers continuent de travailler, surveillés par les soldats.
Et comment se comportent les soldats avec les autres villageois? Est-ce que vous avez reçu des menaces ou des consignes de la part des autorités?
Bien sûr, les autorités turques exercent beaucoup de pression sur nous. Si nous sommes ici aujourd'hui, c'est que nous ne pouvons pas vous parler dans notre village, parce que vous êtes journaliste. Nous devons faire très attention.
Est-ce que vous avez peur pour vous ou votre famille?
Évidemment, nous avons reçu l'ordre de ne parler ni aux étrangers ni aux journalistes. Et si mon témoignage était publié sur une chaîne turque et que j'étais reconnu, je serais arrêté, interrogé. Ma famille, mes enfants auraient de graves problèmes.
Ce villageois, comme ses voisins, a déjà reçu environ 10 000 euros pour compenser la perte de sa maison, de ses terres et de toutes ses bêtes. À lui ensuite de choisir entre l'exil et l'achat d'une nouvelle maison construite par l'État turc, mais vendue environ 35 000 euros, soit plus du triple de l'indemnité. Et lorsque l'eau commencera à monter, plus de 50 000 autres personnes qui habitent en amont du barrage devront quitter leur maison. À quelques kilomètres d'Hasankeyf, le petit village de Soutcheken est niché dans un méandre du Tigre. Lui aussi est menacé par le barrage, mais cette fois-ci on peut s'y rendre sans risque. Youssouf y habite avec sa famille et il nous conduit dans le cimetière du village.
Regardez là-bas, c'est la tombe de mon beau-père. Et cette tombe ici, c'était des gens de ma famille. Ce cimetière est très très vieux. Beaucoup de personnes de ma famille sont enterrées ici. Et les autres, eux, sont tous originaires de mon village. Je les connais tous. C'est petit ici, vous savez. Cet endroit, ce cimetière, a beaucoup de valeur pour moi et pour tous les villageois. Si nous devons partir, nous ne pourrons pas transporter les tombes dans un autre endroit. Si le barrage est construit, toutes ces tombes disparaîtront sous l'eau, à jamais. Mettez-vous un instant à ma place. Est-ce que vous pouvez imaginer ce que ça vous ferait si on vous faisait endurer la même chose? C'est insupportable pour moi d'imaginer les tombes de mes ancêtres submergées par l'eau du Tigre. Et puis, vous savez, je suis un vieil homme, je ne sais pas si j'aurai le courage de recommencer une nouvelle vie. À mon âge, ce sera deux fois plus difficile pour moi. Je ne sais pas où aller, où emmener ma famille. Il faudra que nous trouvions une nouvelle maison dans un autre endroit, que nous nous fassions de nouveaux amis. Les gens du village vont se perdre de vue, je ne verrai plus mes amis, les liens entre les gens, la solidarité, tout ça, ça va disparaître.
C'est un regard plein de nostalgie que Youssouf jette sur son village que l'on aperçoit au loin. De retour chez lui, il nous offre le thé pendant que sa femme, Fazile, prépare le repas du midi. Au menu, poisson frais et crudité.
Je suis en train de mettre de la farine sur le poisson. Et ensuite, nous le mettrons à frire dans de l'huile sur le feu de bois. C'est meilleur que sur la gazinière électrique. Vous allez voir, le poisson est délicieux.
Et les poissons viennent du Tigre? Qui les a pêchés?
C'est Harry, mon fils. Tôt ce matin, quand il faisait encore sombre, les poissons étaient encore vivants quand nous les avons coupés en morceaux.
Qu'est-ce que ça vous fait d'imaginer que le tigre qui vous nourrit est aussi le tigre qui pourrait détruire votre maison?
C'est vrai, c'est étrange. Mais nous faisons attention à ne pas le mettre en colère, à ne pas mettre le tigre en colère. Parfois, il est tellement puissant qu'il nous fait vraiment peur. Le courant devient violent. On voit passer d'énormes morceaux de bois. Le tigre devient boueux et emporte tout sur son passage. C'est effrayant. Et quand je pense que notre village, notre maison, nos terres, tout ce que nous avons pourrait disparaître sous les flots à cause de ce barrage, ça me rend triste, très triste. Mais j'ai bon espoir que nous puissions rester ici, si Dieu le veut. J'espère en tout cas. J'espère.
Inch'Allah, on a mené.
Un site archéologique exceptionnel englouti sous les eaux et plus de 50 000 personnes jetées sur les routes, quasiment sans compensation financière. Face à cette situation, trois États européens, la Suisse, l'Allemagne et l'Autriche donc, ont suspendu provisoirement les garanties financières qu'ils apportaient aux entreprises participant à la construction. La Turquie a jusqu'à début juillet prochain pour revoir son projet, mais sur place à Ilissou, tout est prêt pour que les travaux commencent et rien ne semble pouvoir arrêter la marche du progrès. Grand reportage François Cardona, réalisation Benjamin Avayou, à la technique Fabien Mignoret.
Et comme promis, on retrouve François Cardona. Bonjour.
Bonjour Nathalie.
Alors comme on peut l'entendre dans votre reportage, il n'a pas été facile pour vous de savoir où en est exactement la construction de ce barrage d'Ilissou.
Non, effectivement, les travaux auraient dû commencer en octobre dernier. Sous la pression de plusieurs États européens, la construction a été retardée. En réalité, on sait très peu de choses sur l'avancement actuel des travaux. Le moins qu'on puisse dire, c'est que les autorités turques ne facilitent pas vraiment les démarches des personnes qui veulent se rendre là-bas. Comme vous avez pu l'entendre, les villageois d'Ilissou ont vraiment peur des représailles. Lorsqu'ils veulent les punir, les soldats leur confisquent par exemple leur carte de sécurité sociale après les avoir placés en détention. Donc autant dire qu'il faut avoir beaucoup de courage quand on veut parler à un étranger.
Et c'est cela qui explique que vous n'ayez pas pu vous rendre sur le site même du barrage ?
Bien, à vrai dire, je n'ai trouvé aucun chauffeur qui accepte de m'y conduire. Alors j'ai pu cependant parler avec la personne qui coordonne l'action des ONG anti-barrage sur place. Elle s'y était rendue il y a quelques mois et je ne pense pas qu'elle retentera l'aventure de sitôt après avoir pris des photos du chantier et avoir parlé avec ses villageois. Donc, elle a été arrêtée par des soldats qui l'ont placée en garde à vue pour 24 heures d'interrogatoire musclé. Ils lui ont confisqué son appareil photo et son chauffeur a même été menacé de mort.
Les travaux, pour le moment, sont donc gelés ?
Pour le moment, oui. L'Allemagne, l'Autriche et la Suisse, donc, dont les entreprises financent une partie de la construction du barrage ont posé un certain nombre de conditions. Ils veulent donc que la ville d'Hasankeyf ne soit pas submergée ou en tout cas préservée de l'inondation. La Turquie a donc proposé, comme on l'a entendu dans le reportage, de déplacer les principaux monuments. Ça n'a pas suffi à satisfaire ces trois pays européens qui exigent aussi que les quelques 50 à 70 000 personnes qui sont expulsées de chez elles soient mieux indemnisées. Alors fin décembre 2008, ces trois pays européens ont donné un délai de 6 mois à la Turquie pour prendre en compte ces deux points. On en saura donc un peu plus début juillet prochain.
Alors il y a les pays européens qui renaclent et puis ce barrage pose également problème à l'Irak voisin, François.
Oui, car le Tigre, ce fleuve est très long, il prend sa source en Turquie et puis il va ensuite en Irak et si le barrage d'Ilissou est construit, eh bien en aval, le débit de ce fleuve va fortement diminuer et les Irakiens risquent donc de se retrouver sans eau ou presque. Les autorités de Bagdad ont déjà émis des protestations car il est clair que le futur barrage d'Ilissou permettra à la Turquie en quelque sorte de contrôler le débit du fleuve et l'eau. Chacun le sait, dans la région est une ressource rare et précieuse. Or, dans le passé, le chantage de l'eau a déjà été utilisé par la Turquie pour faire pression, par exemple, sur la Syrie voisine, avec laquelle elle partage le fleuve de l'Euphrate. Évidemment, pendant mon reportage, tous les officiels turcs que j'ai interrogés m'ont assuré que la Turquie, évidemment, respecterait scrupuleusement ses engagements internationaux.
Merci François Cardona. Et pour ceux qui voudraient savoir à quoi ressemble Hasankeyf, cette ville millénaire qui pourrait être engloutie, on va signaler que vous avez aussi rapporté de là-bas un reportage photo, des images que l'on peut retrouver sur le site internet d'RFI, www.rfi.fr. On peut aussi, bien sûr, réentendre ce reportage toujours à cette adresse. Demain, direction les États-Unis, nous serons avec Denis Gledu pour un grand reportage sur le système de santé. Barack Obama a promis de mettre en place une couverture médicale pour tous les Américains. Mais en attendant la réforme, nous verrons avec Denis que les associations humanitaires n'arrivent pas à faire face à la demande de soins gratuits.